Accent d'Europe, Catherine Roland.
Centaines de familles quittent leur ville ou leur village pour faire les récoltes, comme on dit, des tomates aux pommes de terre, des pois chiches aux betteraves, des pastèques aux noisettes. Ils prennent la route par familles entières pendant plusieurs mois, emmenant leurs enfants en âge d'être scolarisés et qui pourtant souvent donnent un coup de main dans les champs. Des conditions de travail difficiles, Canon de Lauer est allé constater à Düzce, au nord-ouest de l'Anatolie.
Il fait plus de 30 degrés et Ibrahim cueille des noisettes. Il plie les branches pour ramasser les coques, qu'il jette au fond d'un seau. L'avantage d'Ibrahim, c'est qu'il mesure à peine plus d'1,50 m. Il peut donc travailler sous l'arbre, à l'ombre. Ibrahim a 13 ans, et avec sa famille, il a fait plus de 1000 km depuis Urfa, pas très loin de la frontière syrienne, dans le sud-est de la Turquie. Comme les autres cueilleurs, une dure journée de labeur, de 7h à 18h, lui rapporte 40 liras, c'est-à-dire moins de 15 euros. Le garçon n'a pas eu le choix.
Mon père a des dettes, on travaille pour les rembourser. J'aurais préféré rester à Urfa pendant les vacances. La mairie a ouvert une piscine.
Perché dans l'arbre d'à côté, Mustapha, 20 ans. Tous les étés, depuis qu'il a 10 ans, le jeune homme prend la route, de région en région, de récolte en récolte. Avant les noisettes à Düzce, il cueillait la betterave à Yozgat, dans le centre du pays.
L'argent que je gagne, c'est pour payer des cours privés et réussir l'examen d'entrée à l'université. Je devrais être en train de réviser, mais notre situation financière ne le permet pas. Tout le monde ici a les mêmes problèmes.
Tous les ans, des centaines de milliers de familles, surtout des familles kurdes de l'Est et du Sud-Est, migrent à travers la Turquie pour travailler au champ. Ils voyagent avec leurs enfants, qui rejoignent cette nombreuse main-d'œuvre parfois dès l'âge de 8 ans. Certains entament ce périple en février et les enfants quittent la classe bien avant les vacances scolaires. Mustapha, qui a 20 ans, finit à peine le lycée à cause du retard qu'il a accumulé. Et le jeune Ibrahim, même s'il reprendra l'école en septembre, c'est déjà que beaucoup de ses petits camarades manqueront à l'appel.
J'ai des copains qui, après les noisettes, vont faire les pommes de terre et les betteraves à sucre. Ils commencent l'école en retard. Le proviseur ne dit rien. Il sait qu'ils n'ont pas le choix. Mais ils ont des mauvaises notes. Et je pense qu'ils n'auront pas un bon métier plus tard.
Juste à côté des noisetiers, le camp où dorment ces familles pendant quelques semaines. Un unique robinet pour environ 500 personnes. Des toilettes et des douches en préfabriqué, des tentes en plastique blanc au logo de la sous-préfecture qui leur a prêté ce terrain. Des conditions de vie précaires dans la chaleur et la poussière, mais il y a bien pire ailleurs, assure Elif Gunduzieli. Cette jeune femme travaille pour l'ONG Soutien à la vie qui mène des actions auprès des enfants travailleurs.
À Düzce, le ministère de la Famille et des Politiques Sociales avec la préfecture a créé un bureau spécial sur le travail des enfants. C'est un sujet dont il s'occupe plus que les autres provinces où passent les travailleurs. L'une des raisons, c'est que la noisette est un grand produit d'exportation pour la Turquie. Les sociétés étrangères qui achètent les noisettes de Düzce tiennent en général à ce que des enfants n'aient pas participé aux récoltes. C'est donc aussi une question d'image. Ils font des efforts pour que des enfants ne travaillent pas.
Mais pourtant, c'est le cas.
Et oui. Bonjour.
Bonjour. Sous l'une de ses tentes, décorée de quelques dentelles et d'un épais tapis, Aynour et Selma, 23 et 30 ans. Elles préparent le repas.
Nous travaillons depuis que nous sommes nés. Nous avons grandi dans les champs, nous sommes habitués. C'est comme ça que nous gagnons notre vie. À Urfa, nous ne travaillons pas, les hommes de la famille ne l'autoriseraient pas.
On pourrait travailler dans la zone industrielle, mais elle est trop loin de la maison, donc on ne peut pas. Il faudrait que les usines soient dans le quartier. Au moins, dans les champs, nous, les femmes, nous pouvons travailler puisque c'est en famille. Mais c'est sans contrat de travail et sans sécurité sociale. Les patrons ne veulent pas. Soit on accepte, soit d'autres prennent notre place. Ce ne sont pas les travailleurs qui manquent.
À part son neveu d'un an, dont elle s'occupe aujourd'hui, Selma raconte que tous les enfants de sa famille sont partis à la cueillette.
L'association organise un pique-nique pour les plus petits. Les plus grands, ceux qui travaillent, nous supplient depuis 10 jours de les laisser y aller. Juste pour cette fois, pour l'amour de Dieu, ils disent. Mais les parents ne veulent pas, et il faut les comprendre. Ils sont venus ici pour un revenu. Chaque jour, chaque paye compte.
Le pique-nique en question est organisé par l'ONG Soutien à la vie. Les enfants qui y participent sont ceux qui ne travaillent pas. En fait, leurs frères et sœurs de moins de 16 ans ne devraient pas travailler non plus. La loi turque l'interdit. Mais on estime que dans le pays, près d'un million d'enfants travaillent, dont plus de la moitié dans le secteur agricole. Ces chiffres officiels datent de 2012. Ils sont issus d'une enquête et donc forcément imprécis. Les données manquent, mais aussi les actions, regrette Elif Gündüzyeli. Son ONG préconise un plan en deux temps.
D'abord, il faut améliorer les conditions de vie dans les camps de travailleurs. Que les mairies, les préfectures leur allouent systématiquement un terrain et que ce terrain soit sûr, avec de l'eau potable, de l'électricité et un espace pour accueillir les enfants. Sur le long terme, sachant que la Turquie est un grand pays agricole et que le travail migratoire saisonnier ne s'arrêtera pas de sitôt, il faut encourager l'emploi dans les régions d'origine, et notamment le travail des femmes. Car si les femmes restent pour travailler, alors leurs enfants resteront aussi. Bien sûr, il faut que tout cela soit fait en tenant compte des traditions locales.
La Turquie s'est engagée auprès de l'Organisation internationale du travail à éliminer d'ici 2015 les pires formes de travail des enfants, dont l'agriculture migratoire saisonnière. À Düzce ou ailleurs, l'objectif est loin d'être atteint.
Et à cause de mauvaises conditions météo, les marchés qui se soucient assez peu des conditions de travail se sont plutôt inquiétés de la pénurie de noisettes. La Turquie fournit 70% de la production mondiale. La noisette, un des mets préférés des corbeaux notamment, des oiseaux qui intriguent définitivement les ornithologues britanniques. La British Trust for Ornithology a même lancé une étude sur le comportement de ces oiseaux noirs à la si mauvaise réputation. Depuis le début de l'été, la population est donc invitée à chausser ses lunettes pour observer très attentivement le comportement du volatile dans les grandes villes. Marie Billon.
Leur croissement fait peur et souvent utilisé au cinéma, il symbolise le malheur. Et pourtant, le corbeau pourrait bien nous surprendre, d'abord parce que c'est un oiseau très intelligent. Cela fait des années que ces volatiles sont étudiés en laboratoire. Soumis à une batterie de tests et d'exercices destinés à mesurer son intelligence, l'oiseau noir a toujours surpris l'homme en blouse blanche. Les scientifiques ont découvert que le corbeau a une mémoire d'éléphant, ou presque, et que face à un problème, il peut évaluer les risques et prendre une décision en conséquence. Dans son milieu naturel, le corbeau est aussi plein de ressources. Opportuniste, il profite du trafic routier et jette des noix sur les routes encombrées pour que les voitures les écrasent et donc ouvrent les fruits secs. Il y a plusieurs mois, un Londonien a filmé un corbeau, souvent un bébé pigeon. Tombé du nid en plein milieu d'une route très fréquentée, il l'a pris dans son bec et l'a posé sur le trottoir. Le passant en avait presque les larmes aux yeux. Les scientifiques, un peu moins romantiques, estiment que le corbeau pensait plutôt le bébé pigeon déjà mort. Il l'aurait ôté de la route pour mieux le manger. Peu importe, l'étude n'a pas pour objectif d'améliorer la cote de popularité de l'oiseau noir, mais de vérifier son intelligence. Il s'agit donc pour les Britanniques attentifs d'observer 6 activités, comment l'oiseau se nourrit, cache et conserve sa nourriture, comment il joue, socialise, communique et sa résilience. En somme, les scientifiques semblent vouloir prouver que le corbeau ressemble finalement beaucoup à l'être humain.
Et si Lisbonne se cherchait une nouvelle jeunesse en tentant d'attirer de jeunes créatifs derrière le dépôt des trams à l'est de la capitale portugaise, juste sous le pont du 25 avril, un curieux échafaudage coloré de bus et de conteneurs frappe l'œil des passants. Il s'agit du Village Underground, un espace de travail réservé à de jeunes start-up. Qu'ils soient artistes ou avocats, les entrepreneurs ont à leur disposition un nouvel espace dont la philosophie tranche avec les bureaux traditionnels. Marilyn Darcy s'y est rendue.
Village Underground Lisbonne est un espace de bureau partagé qui s'inspire de son frère aîné de Londres. Ce n'est pas un hasard. Mariana Duarte, mentor du projet lisboète, a travaillé au village londonien. L'installer à Lisbonne fut une aventure. Mariana Duarte.
Entre 2009 et 2012, ça a été la traversée du désert. Personne ne comprenait mon projet. Il n'y avait pas de lieu où l'installer. Il n'y avait pas d'argent, pas d'autorisation, aucune volonté d'aboutir. Rien, nada. Et moi, j'étais considérée comme une farfelue à vouloir monter cette structure. Et puis en 2012, heureusement, la mairie a décidé de faire de Lisbonne une ville créative et de favoriser les start-up. On est désormais liés par un accord de partenariat.
Chris aidant, les mentalités évoluent. La Cariche, la société des transports publics, cède l'espace et deux autocars inutilisables. Le port des conteneurs et une banque prêtent l'argent. De jeunes architectes agencent les modules, les relient par des coursives métalliques. La déco dans le genre street art fait le reste, un espace de travail tout à fait dans l'air du temps. Marianne Duarte.
Ici,
l'ambiance favorise l'inspiration. Ça a marché pour moi et les autres. Récemment, on a organisé un déjeuner pour l'ouverture de la cafétéria. Les résidents sont venus et ont commencé à monter des projets ensemble. Les acrobates, les écrivains ou encore les acteurs sont en train de monter des événements. C'est porteur le fait d'être tous ensemble. Et puis, les villages underground de Lisbonne et de Londres sont intégrés dans un réseau européen, Trans-Europe HAL, une association de centres culturels indépendants.
Le village loue 4 bureaux par conteneur pour 150 euros par mois chacun. C'est moitié moins cher qu'en ville. De quoi séduire une clientèle liée à l'industrie créative, artistes, médias en ligne, écrivains, designers et même des avocats. Denise représente le cabinet Alternative Légale et occupe un bureau une fois par semaine.
Nous intervenons en amont. Les gens qui adhèrent au coworking sont de jeunes créateurs d'entreprises qui aiment se débrouiller seuls. Notre rôle est donc de servir d'agent de liaison entre leur volonté et l'information légale pour monter une société. Alors, bien sûr, d'autres avocats travaillent en coworking, mais l'espace de travail est fermé. Notre vision est à l'opposé. On fonctionne en espace complètement ouvert et accessible.
Pour Denise, le village signifie vivre au plus près des préoccupations des jeunes clients. Pour certains d'entre eux, un local différent dans un cadre qui leur correspond est un vrai atout. Zemaria de la marque Sal, créateur de maillots de bain.
C'est super. Rien que la vue, ça vaut le coup. Certes, on fonctionne en showroom et non comme une boutique, mais on voulait un environnement accueillant, spacieux, où l'on se sent vraiment à l'aise. C'est vraiment l'idéal pour notre activité de niche, la fabrication de maillots pour les 25-40 ans.
Se retrouver dans un vieux bus pour un café, établir des partenariats en allant prendre l'air sur les coursives, c'est la réinvention du lieu de travail. L'idée séduit, puisqu'un nouveau village underground va bientôt voir le jour à Berlin.
La chronique.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Catherine.
Alors avec vous Eve, on va parler de drôles de drogues qui ne font pas vraiment rire. Dans l'est de la capitale anglaise, une nouvelle drogue est en phase de se banaliser auprès des jeunes, tandis qu'en Allemagne et ailleurs, on redécouvre les vertus de certaines fleurs.
Oui, et on commence avec le protoxyde d'azote, surnommé gaz hilarant ou hippie crack, outre-Manche. Cette drogue s'inhale avec un ballon de baudruche que l'on remplit avec des cartouches métalliques, celles des siphons à chantilly par exemple. Son aspect ludique et bon marché, 5 livres, les 3 ballons, en fait un compagnon idéal pour la fête chez les jeunes anglais, sans compter que son accès est légal et donc très difficile à encadrer. Il serait plus de 7% parmi les jeunes anglais donc de 16 à 24 ans à avoir testé cette drogue l'an passé, un chiffre en légère augmentation.
Des jeunes qui redécouvrent une drogue finalement pas si récente, hein, puisque le détournement de ces cartouches de gaz ne date pas d'hier.
Non, déjà à la fin des années 90, ce procédé était bien connu des rêveurs, les amateurs de rave party, ces soirées techno organisées en plein air. Mais il semble qu'aujourd'hui, son commerce soit mieux organisé. Si on le trouve dans les poches des dealers qui traînent sur les trottoirs de Londres, on peut également en acheter en libre-service sur Internet. Et certains sites proposent même des kits. Des logos marketing sur les ballons auraient aussi fait leur apparition.
Il n'en reste pas moins que c'est dangereux, Eve.
très dangereux. Le gaz hilarant est une vraie drogue aux effets dévastateurs pour le cerveau et le système nerveux. Il provoque aussi des vertiges, un sentiment d'euphorie, voire des hallucinations. D'autant que ce gaz se trouve aussi à plus haute dose dans les bouteilles médicales laissées à la sortie des hôpitaux. Elle serait à l'origine d'une quinzaine de morts ces 5 dernières années, selon l'association Resolve, qui fait de la prévention autour de la consommation de substances volatiles. Encore cet été, un jeune londonien est décédé en France après avoir consommé du gaz hilarant dans un festival à Sète.
Alors, autre drogue au succès grandissant auprès des jeunes, l'hortensia n'allait pas piller les haies en Bretagne.
Oui, c'est surprenant et pourtant, chaque printemps, il semblerait que les mystérieuses disparitions se répètent. Des plants entiers d'hortensia sont volés dans les jardins. Le détournement de cette plante utilisée comme un substitut à la marijuana inquiétait déjà les autorités allemandes depuis 2013. Cette année, il semblerait que la pratique ait passé la frontière puisqu'en France également, plusieurs jardins ont été saccagés en début d'année.
Eh oui, pourtant la fumette de ces feuilles séchées est encore plus nocive que celle du cannabis.
C'est exact. Selon les spécialistes, sa composition se rapproche bien du THC, la substance contenue dans le cannabis, ce qui explique son succès auprès des traditionnels fumeurs de joint. Mais elle pourrait s'avérer extrêmement plus néfaste pour le système respiratoire notamment, voire carrément mortelle. En se baladant un peu sur les blogs d'apprentis jardiniers fumeurs, on conseillera donc plutôt la laitue, le coquelicot ou la lavande, sans gros effets psychotropes, mais sans risque pour la santé non plus.
Oui, la laitue, j'y avais pas pensé. Alors pour terminer, Eve, un petit inventaire à la Prévert des drogues les plus insolites en Europe.
Oui, je vous avoue Catherine qu'après l'écriture de cette chronique, mon regard sur les hortensias de ma grand-mère avait radicalement changé. J'ai donc cherché sur le net d'autres objets du quotidien détournés de leur usage classique pour se droguer et je n'ai pas été déçue. Figurez-vous que dans certains pays, on sniffe des rails de cafards réduits à l'état de poudre, on fume la peau des crapauds et même on boit l'urine de rennes à qui l'on a fait manger des champignons hallucinogènes. J'avoue, c'est un peu tordu, mais bon, je vais essayer d'en savoir plus pour vous.
Je vous dis donc, Eve, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Catherine.
Voyelle.
E.
Consonne.
I.
Consonne.
P.
Voyelle.
O.
Expo. Expo. Exposition.
Exposition. Et c'est de l'Espagne voisine que François Musso nous invite à une exposition exceptionnelle sur le colonialisme au musée d'art contemporain de Castille et León. Les 350 œuvres de 120 artistes espagnols lancent un regard très critique sur ce passé peu glorieux.
Toiles du XVIIIe siècle, vidéo art, coupures de journaux, photographies, cartes géographiques. Sur 1500 mètres carrés, la diversité des supports est considérablement variée. Mais toutes ces œuvres expriment la même chose. Une condamnation du passé colonial espagnol depuis le XVe siècle. Sur cette toile, il est rappelé que le général Prime protégeait les Blancs et condamnait à mort les Noirs. Sur cette vidéo, on voit des images d'archives des enclaves au Maroc, des villes espagnoles de Ceuta et Melilla. Sur cette affiche publicitaire, on voit un musulman boire de la bière sous le slogan « Le Coran l'interdit, mais cette bière est si délicieuse ». Ailleurs, un montage photo reconstitue une exécution aux Philippines, une des dernières colonies espagnoles perdues à la fin du XIXe siècle avec Cuba et Saint-Domingue. Le commissaire de l'exposition, Juan Guardiola, a voulu montrer la mauvaise conscience de nombreux artistes par rapport à la colonisation espagnole, de l'Asie à l'Amérique latine. Selon Guardiola, on rappelle toujours les abus des colonisations françaises ou britanniques, on oublie souvent les outrages commis par les Espagnols. Une partie de l'exposition est particulièrement révélatrice. On y voit une carte, symbole de l'appropriation de l'Amérique andine, un livre d'histoire, bien sûr écrit par les vainqueurs, un évangile, la justification de l'invasion, et une sculpture représentant la violence, c'est-à-dire la manière de perpétuer cette même domination.
Exposition à voir jusqu'au 6 janvier 2015. Accent d'Europe, c'est déjà fini à la réalisation Stephen Helsley. Vous pouvez nous réécouter évidemment sur le site RFI.fr, nous retrouver sur Facebook. En attendant, restez sur RFI dans un instant, les infos.
Pour nous écrire, accent au pluriel, .europe@rfi.fr.
autour de la